Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
8h44, merci d'être avec nous dans quelques instants, le petit déjeuner de l'actu avec Alexis Poulain, Éric Revel. On refera l'édito écho d'Éric Revel,
oui, on
a
revoir,
eu un petit problème tout à l'heure. Elisabeth Lévy et vos appels, hein, comme tous les matins, 0826-300-300, juste le moment de faire la revue de presse, hein, avec Benjamin Glaise.
Oui, Benjamin est en une du Figaro, c'est la contre-attaque de Nicolas Sarkozy, c'est une interview exclusive.
Hein. Oui, avec notamment cette phrase, hein, « Je ne peux pas accepter d'avoir été condamné pour ce que je n'ai pas fait ». L'ancien président de la République qui revient aussi sur sa décision de faire appel dans le Figaro. Il se dit même prêt à aller plus loin. Peut-être faudra-t-il que ce combat s'achève devant la Cour européenne des droits de l'homme, tout en ajoutant « Ce serait pour moi une grande souffrance que d'avoir à faire condamner mon propre pays. Mais je suis prêt, car ce serait le prix de la démocratie, en tout cas sur les conséquences politiques de cette peine de 3 ans dont enferme. De toute façon, à l'en croire, il ne pensait plus du tout à l'élection présidentielle. Avant même cette décision du tribunal, j'avais dit que je ne serais pas candidat. Je le maintiens. » Enfin, de manière peut-être plus anecdotique, Nicolas Sarkozy raconte eh bien ce qu'il a fait après l'annonce du verdict. J'ai passé la soirée avec ma famille, nous avons regardé la soirée The Killing, la série The Killing, dans cette interview. The Killing, en fait, pour tout vous dire, c'est une série policière scandinave, diffusée notamment sur Arte, avec des enquêtes liées à des événements politiques locaux ou internationaux. Voilà, vous savez tout.
The Killing, tiens donc.
The Killing. Voilà.
Une énigme dans le petit bleu d'Agen, mais où est tombée la météorite?
Bah oui, on a parlé notamment dans le Grand Matin avec vous, Patrick. Ouais. Elle est venue des profondeurs de l'espace et elle s'est écrasée samedi soir vers 23h dans la région d'Aiguillon. Hier, des premières recherches ont débuté pour tenter de la retrouver le plus vite possible. Le but, il est avant tout scientifique, en l'occurrence, tirer le maximum possible d'informations sur cet objet céleste. C'est pourquoi eh bien, un appel aux bonnes volontés a été lancé par les associations pour donner un coup de main et tamiser les parages, puisque c'est tout petit, hein, de l'ordre de 150 grammes, donc faut avoir l'œil.
Et puis, c'est l'équivalent d'une mandarine ou d'une boule de pétanque, quoi, un petit peu.
Oui, c'est vrai. Donc, oui, c'est vrai que pour
parler à un spécialiste. Ça,
mais oui, je le sais.
C'est pour ça. L'homme des comparatifs.
Je me fais tout petit, comme le bout de météorite. Autre sujet, c'est un constat. Cette fois-ci, à la une de la République des Pyrénées, ça bouchonne à l'heure du couvre-feu, à Pau comme ailleurs. Effectivement, on circule au ralenti, hein, sur la rocade tous les soirs à l'approche de 18h. Et puis, ça bouchonne aussi à deux roues et sans moteur. Le vélo gagne du terrain. Ça, c'est le titre de l'éclair des Pyrénées, car dans l'agglomération de Pau, eh bien, ils sont de plus en plus nombreux à aller travailler à vélo. C'est le résultat d'une étude basée sur plus de 1200 témoignages.
Oui, merci beaucoup Benjamin Glaise. On poursuit notre tour de France de la presse, des journaux, avec Denis Carreau, hein, qu'on est content d'accueillir aussi, directeur des rédactions du groupe Nice Matin. Bonjour Denis.
Bonjour Patrick.
En une ce matin de Nice Matin.
L'incroyable témoignage de cette aide-soignante qui a été blessée, ainsi que l'une de ses collègues, la semaine dernière, aux urgences de l'hôpital Pasteur de Nice, est blessée par un tir de stylo-pistolet. C'est une histoire absolument dingue, avec un accessoire digne d'un mauvais James Bond.
Oui.
L'équipe des urgences venait de prendre en charge un patient qui venait d'être jeté devant l'hôpital avec 2 balles dans le ventre, comme dans les films. Dans sa poche, il y avait un objet qui n'a pas été identifié dans un premier temps, qu'une des aides-soignantes a manipulé, et le coup est parti tout seul. Il a transpercé le corps de sa collègue avant de venir se ficher dans son bras. L'aide-soignante nous raconte en détail cette soirée d'horreur et son incompréhension face à une situation absolument hallucinante. Elle a été opérée, elle ne devrait pas garder de séquelles. C'est en tout cas un incident gravissime qui met une nouvelle fois l'accent sur les risques et les tensions à l'hôpital, et l'aide-soignante demande, et c'est le cas aussi du syndicat Force Ouvrière du CHU de Nice, un renforcement rapide des dispositifs de sécurité à l'hôpital.
À l'hôpital, oui. Il y avait eu des incidents tels que ceux-ci, des accidents, et plus que des accidents, véritablement des dérives du côté de Marseille il y a quelques temps, et donc là, à Nice, chez vous. Un mot peut-être aussi on l'a évoqué ce matin, où nous avions une commerçante avec nous, puisqu'il y a eu la réouverture hier de centres commerciaux qui sont à ciel ouvert, hein, notamment je pense au polygone Riviera à Cagnes-sur-Mer, qui ont trouvé des failles, quoi, Denis Carreau, hein,
C'est exactement ça, ils ont trouvé une brèche, hein, dans les arrêtés de la préfecture. qui interdisent l'ouverture de tous les commerces de plus de 5000 mètres carrés. Polygone Riviera, c'est un centre commercial à ciel ouvert de 75 000 mètres carrés. Donc il y a deux grandes surfaces qui restent fermées parce qu'elles sont trop importantes, mais les autres sont ouvertes depuis hier. Ouais. Ça ne fait pas rire le préfet qui cherche des arguments juridiques pour éviter cette situation et qui voudrait éviter, et on le comprend, qu'il y ait des regroupements importants alors même que les autres commerces sont fermés, mais cette faille juridique existe et ces centres commerciaux sont ouverts depuis hier matin.
Oui, pendant 4 jours, puisque c'est fermé le week-end avec le confinement. Ce qu'elle nous disait, c'est que bon, il y avait des protocoles sanitaires qui avaient été renforcés, c'est-à-dire qu'un client, normalement, pour 15 mètres carrés, donc dans les différentes boutiques, c'était plutôt bien respecté.
Alors, c'est très bien respecté, et effectivement, les commerces ont mis en place ces fameux médiateurs Covid. Oui. Donc il y a des précautions très importantes qui sont prises, mais il n'en reste pas moins que ces commerces sont ouverts.
Oui, absolument. Merci beaucoup Denis Carreau d'avoir été avec nous, c'est à lire dans Nice ce matin.
Et on continue le petit déjeuner de l'actu ce matin. Alexis Poulain, Elisabeth Lévy, Eric Revel, vos appels comme tous les matins, 0826-300-300 pour réagir à l'actualité.
Oui, et dans cette actualité, il y a notamment l'assurance chômage. Hein. Donc, on a commencé à en parler tout à l'heure avec Eric Revel. Eric, donc il y a aussi avec nous Alexis Poulain et Elisabeth Lévy qui vont pouvoir réagir. On disait donc qu'il y a cette assurance chômage qui est actée, la réforme, avec un démarrage le 1er juillet prochain. Il y a une opposition, qu'est-ce que ça va changer, Eric, à partir du 1er juillet ?
Alors, au 1er juillet prochain, hein, ça concernerait 800 000 personnes d'après les stats du ministère du Travail, il faudra avoir travaillé 6 mois au lieu de 4 sur les 24 derniers mois pour prétendre à cette indemnité chômage. Mmh. Alors, la réforme, elle vise quand même à économiser de l'argent, hein, 1 milliard d'euros par an pour l'UNEDIC, mais je vous rappelle que le financement du chômage partiel, ça coûte 2 milliards d'euros. Oui. Par mois. Donc c'est pas tout à fait la même chose, mais surtout, cette réforme, finalement, pour ne fâcher personne, on est toujours dans le en même temps, cette réforme, elle va réellement s'enclencher, mais elle répondra à des seuils de nombre de chômeurs et d'embauches précis pour le gouvernement. Donc c'est assez complexe, mais ça veut dire aussi tout l'embarras, me semble-t-il, du gouvernement face à cette réforme.
Oui, non mais ça c'est vrai, parce que c'est compliqué en plus. Est-ce que c'est la bonne période pour la lancer, Eric ? Parce que Emmanuel Macron veut coûte que coûte la lancer, lui. Hein.
Oui, bah vous avez raison, le timing ne me semble pas bon du tout. D'abord parce que on ne sait pas exactement dans quel état sera le marché du travail. Hein. Je vous parlais tout à l'heure de seuils précis de déclenchement en termes de chômeurs et d'embauches créées. Et c'est qu'à cette condition-là, à ces conditions-là que ça se déclenchera. Donc on voit bien que, un, le timing n'était pas bon parce qu'on ne connaît pas l'état de dégradation du marché de l'emploi tant qu'il est soutenu artificiellement par des mesures financières. Et puis deux, bah oui, il n'y avait pas urgence réellement à lancer cette réforme. Alors, oui, vous avez raison, Emmanuel Macron, bah, il est dans le coûte que coûte, et il n'est plus dans le en même temps, il est dans le coûte que coûte, parce qu'il veut démontrer, notamment à son électorat de droite, que, en dépit de la crise sanitaire, lui, le champion, il poursuit les réformes, parce que l'heure du bilan, évidemment, approche pour lui avant la présidentielle. Donc là, la réforme de l'assurance chômage risque peut-être d'être la seule réforme qu'il pourra exhiber pour dire, vous voyez, j'ai quand même réformé. Parce que n'oubliez pas, Patrick, que la fameuse réforme des retraites, on peut s'en plaindre ou s'en féliciter, elle a été abandonnée en race campagne. Hein. C'était la retraite, c'est la bérésina. Si
je sais pas si Elisabeth Lévy, Alexis Poulain, un commentaire sur cette réforme. Alors, Elisabeth, et puis ensuite Alexis.
Ah bon,
Alexis, comme à l'école, réforme, qui lève le doigt.
Ouais. Moi, je suis sage, hein, je lève le doigt. Non, sur cette réforme, alors Bruno Le Maire était entendu hier par les sénateurs. La réforme de retraite, il veut quand même la faire. Hein. Il a dit qu'il faudra rembourser la dette, donc il faudra travailler plus longtemps. Et que oui, la réforme structurelle de l'assurance chômage devra aussi avoir lieu si on veut tenir les engagements de la France sur les marchés. Il y a évidemment le problème de cette réforme de l'assurance chômage, c'est le timing, avec l'idée de dire si au plus tôt ça arrive, ce sera en octobre 2021, avec à la fois il faudrait une baisse du nombre de demandeurs d'emploi en catégorie A de plus de 130 000 sur 6 mois et 2,7 millions d'embauches de plus d'un mois sur 4 mois. Donc ça, c'est vraiment des si et seulement si qui font que sans doute cette réforme ne va pas arriver sur la table, parce que je ne vois pas comment
Voilà, ça donc pourrait on est Alexis, quand même dans l'habillage, on est dans l'habillage, on est dans la communication comme souvent, y compris quand effectivement Bruno Le Maire dit qu'il va faire la réforme des retraites devant les sénateurs, ça mange pas de pain, mais non. Si les cliquets de démarrage de cette réforme des retraites sont aussi complexes que ceux de l'assurance chômage, ben, bon courage, il se passera rien.
Pas avant 2022 et 2023, ça c'est sûr.
Oui, d'accord.
Non mais... Moi, je veux pas jouer trop les rabat-joie, mes chers amis. Bon, j'ai pas tout à fait compris les effets de cliquer. C'est-à-dire qu'à partir d'un certain nombre de chômeurs ou pas, oui. On la déclenche, c'est ça,
oui,
Eric ?
Oui, c'est ça, absolument.
C'est ça. Il faut des créations d'emploi, un certain nombre de créations d'emploi.
D'accord.
Et une réduction de nombre de chômeurs avant d'enclencher la réforme de l'assurance chômage.
Et est-ce que mon cher Eric pourrait simplement nous donner une information qui est quel est le déficit de l'assurance chômage ?
Je vais dire une bêtise, mais je crois qu'on est autour des 30 milliards.
Ah oui. Ah oui, et donc, c'est pour ça que je vais jouer les rabat-joie, c'est-à-dire...
On ne sait plus où on en est, sur l'ensemble des déficits.
C'est pour ça que je vais jouer les rabat-joie, c'est-à-dire qu'on est toujours face au même problème, face à notre merveilleux système social, on est tous pour qu'il y ait des filets partout. Accessoirement, la France est tout de même un des pays où il y en a le plus, on se plaint tout le temps, mais malgré tout, vous parlez avec les gens, c'est vrai que dans d'autres pays, même pendant la crise, ça ne se passe pas du tout comme chez nous, et tant mieux. Mais à un moment, ce système social, il faut quand même le financer. Alors, à l'arrivée, je sais que c'est les partenaires sociaux, je crois, qui paient l'UNEDIC. Mais à l'arrivée, c'est les contribuables qui le payent, de toute façon. Donc, quoi qu'il en soit, ça ne me paraît pas... je comprends pour le timing, vous avez raison, ça je suis d'accord avec vous. Mais il y a un moment, effectivement, je veux dire, on ne peut pas continuer à avoir des systèmes qui sont déficitaires de partout. Ça ne marche pas, tout simplement.
Mais Elisabeth, il y a quand même un problème, c'est que d'un côté, dans le plus dur de la crise sanitaire, on a expliqué aux Français que grâce aux mesures de chômage partiel, notamment... il n'y avait pas de souci à se faire, vous savez, c'était la fameuse formule, il y a de l'argent magique, même s'il n'est pas magique.
Oui.
Et puis d'un autre côté, on dit, il y a urgence maintenant à réformer l'assurance chômage. Donc dans la tête des gens, on ne comprend pas très bien. Mais où vous avez raison, Elisabeth, c'est qu'il faut quand même rappeler qu'on est dans un pays où les amortisseurs sociaux n'ont pas d'équivalent dans le monde. On est quand même les champions de l'aide, de l'amortisseur social. Et ça, c'est évidemment mettre à notre crédit, si j'ose dire, mais à notre débit aussi, parce qu'il faut bien payer l'addition à un moment donné.
Oui.
J'en faisais un édito il y a peu ici. Il y a la CADES, la Caisse d'amortissement de la dette sociale française, qui joue en fait la dette sociale sur les marchés financiers. Et c'est pour ça que Bruno Le Maire tient ce discours, pour rassurer les marchés, parce qu'on a besoin de cet argent pour continuer d'emprunter.
Allez, on marque une pause et on se retrouve dans un instant. Est-ce que vous avez envie de faire court dehors, Elisabeth Lévy, je ne sais pas si Alexis, Eric Revel, vous avez vu, c'est l'idée qui a été émise par Anne Hidalgo, un peu partout sur le territoire. Hein. D'ailleurs, certains maires y avaient pensé à quelques moments au printemps dernier, à la sortie de crise. Il y a Michel Dutarn qui répond par exemple sur les réseaux sociaux. Mon épouse, professeure des écoles, fait déjà l'école à l'extérieur depuis des années, tout simplement parce que c'est autorisé. Alors, cette proposition d'Hidalgo, c'est encore de la com. Qu'est-ce que vous en pensez ? Vous réagissez ? On en parle ensemble dans quelques minutes maintenant avec un invité, directeur d'école, qui sera avec nous.
Absolument. On revient dans un instant avec les journaux et Arthur Delaborde. À tout de suite.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
C'est la suite du petit déjeuner de l'actu, toujours avec Elisabeth Lévy, avec Alexis Poulain. Et ce matin, on va revenir sur la proposition d'Anne Hidalgo, qui nous propose justement de faire cours en plein air, en tout cas pour les enseignants, et pour diminuer le risque de contamination. Avec nous ce matin pour en parler, Nicolas Wallek est avec nous, directeur d'école maternelle à Paris, membre du syndicat d'école primaire SNUIPP FSU. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour. Qu'est-ce que vous en pensez de cette idée, Nicolas Wallek?
Ouais, c'est typiquement la fausse bonne idée, mais qui vient pas seulement d'Anne Hidalgo. Hein. Jean-Michel Blanquer avait déjà avancé les mêmes choses il y a pas si longtemps. Donc là, on est sur quelque part quelque chose qu'on ressort. Fausse bonne idée au sens où c'est forcément pertinent d'aller à l'extérieur, c'est évident. Hein. Au contraire, si on a la possibilité de sortir, c'est très bien. De là, vouloir systématiser, parler de faire classe et systématiser les pratiques avec toutes les contraintes que ça pose, c'est totalement impossible.
Ouais. Bon. Déjà, elle dit il faut évidemment faire cours aussi fenêtres ouvertes. C'est ce qui se passe globalement quoi, dans beaucoup de classes, non ?
Ah, fenêtres ouvertes en permanence, a priori, je pense pas. Par contre,
ça dépend des endroits. Ça dépend des endroits.
Avoir une aération de façon très fréquente, oui, ça c'est évident. Ouais. Après, on est contraint, par définition, on est contraint aussi par les températures extérieures. Hein, si vous voulez, entre le plein hiver et puis là, le redoux qu'évoquait la météo tout à l'heure, on n'est pas du tout dans les mêmes conditions non plus.
Oui, vous savez, moi je connais en fait quand même certains profs qui appliquent complètement et donc qui ont laissé ouvert tout l'hiver les fenêtres, un peu ou beaucoup, et qui surtout ne voulaient pas que les élèves quand même gardaient leur doudoune en classe. C'est complètement aberrant, mais c'est arrivé. On en rigole, mais parfois, c'est ça qui est difficile d'ailleurs, de contenter tout le monde, parce que, et puis d'appliquer jusqu'à un certain niveau. Normalement, il faudrait mettre un peu de bon sens, quoi, Nicolas Wallet, non ?
Le bon sens, c'est évident, mais c'est vrai qu'à force d'avoir nombre d'injonctions contradictoires, c'est toujours un peu compliqué de savoir à quelle limite on met les choses, entre d'un côté la réalité que vivent les élèves, la pression des parents, la pression de l'institution. Ouais. C'est vrai qu'il faut trouver un juste équilibre, mais c'est pas toujours évident. Alors effectivement, l'exemple que vous prenez paraît un petit peu caricatural, hein. je vais pas vous dire.
Non, mais c'est vrai, sauf qu'il existe et que c'est pas vrai. C'est pas un exemple, c'est plusieurs exemples. Oui. Non, mais c'est vrai, c'est pas un exemple, c'est plusieurs exemples, parce que, il faut appliquer, etc. Et que, et puis il y a le port du masque, quoi, qui est quand même compliqué, notamment avec les plus petits.
Alors, le port du masque, c'est pas... Alors, moi, si je parle de mon expérience, on est en école maternelle, les élèves sont pas concernés en ce qui nous concerne.
Non, ça, c'est vrai.
Ce que les retours qu'on a sur les collègues d'élémentaire, c'est qu'effectivement, c'est pas simple. Hein, personne va vous dire le contraire. Ouais. De là à dire que c'est ingérable, non, on n'ira pas jusque-là. Bon, les choses se font, on est obligé de faire avec, on s'y fait, et on s'adapte. Hein, de toute façon, depuis un an, on est... je crois que là, c'est vraiment le mot-clé, c'est l'adaptation.
Hein. Ouais. Est-ce que vous avez eu des cas de Covid, vous, dans vos classes?
Moi, j'en ai eu un seul.
Un seul, oui. Ouais. Mmh. Bon, et donc...
J'ai une petite école, on est relativement préservé, voilà. Donc, après, sur le secteur, hein, autour de moi, il y a eu effectivement des classes fermées, il y a eu un certain nombre d'éléments. Moi, j'ai eu de la chance jusqu'à présent, je dois dire.
Oui. Sur cette idée, alors restez avec nous, Nicolas Wallet, encore quelques minutes. Elisabeth Lévy et notre chroniqueur Alexis Poulain. Donc, sur cette idée, cette suggestion, donc...
Moi, je suis assez frappée par le fait que, quand elle propose ça, Madame Hidalgo, qui d'ailleurs avait réclamé la fermeture des parcs lors du premier confinement, j'espère que vous vous le rappelez.
Oui.
Et quand elle, donc maintenant, elle propose qu'on fasse classe dans les parcs. Bah, chercher la cohérence, mais c'est pas le problème. Oui. Mais moi, ce qui me frappe, si vous voulez, c'est qu'on oublie la spécificité de l'école. Vous savez, je me rappelle le livre et le film de François Bégodeau. Ça s'appelait Entre les murs. Eh bien, oui, il y a une idée, c'est que l'école, ça doit être un sanctuaire. L'école et la vie, c'est pas pareil. Et j'ai aussi pensé à cette poésie qu'on apprenait à l'école, qui est L'oiseau lire de Jacques Prévert. Vous vous rappelez certainement, vous avez des élèves dans une classe qui répètent la table de multiplication, puis un oiseau qui vient en quelque sorte détourner l'enfance et la liberté, etc. Oui, je veux dire, quand vous êtes dans un parc, vous êtes en quelque sorte baigné, vous êtes dans la vie, vous êtes dans la société, vous n'êtes pas dans un sanctuaire. Mmh. Et par ailleurs, il me semble que pour la concentration, si on a mis les gens dans des salles de classe, c'est pas juste pour les enquiquiner. Je vois Alexis qui rigole.
Alexis Poulain.
Je trouve ça super. Parce que ça me rappelle, c'est plutôt l'école des péripatéticiens. Enfin, c'était comme ça qu'on enseignait.
Des péripatéticiens,
absolument. L'école de pensée. Mais oui, ça vient de là. C'était une école de pensée grecque où on faisait cours en se promenant. Et donc, on était dans la nature et on faisait cours en se baladant. Et je trouve ça génial si on peut revenir à ça. Mais pour ça, il faudrait de grands et beaux jardins. Il faudrait que la météo soit clémente. Il faudrait évidemment qu'on n'ait pas des classes de 25.
Sérieusement, vous voyez, dans une cour d'école, quand on voit le nombre d'élèves, plusieurs centaines, c'est impossible.
Ça marche avec des petits groupes et dans des lieux où on peut le faire. Là, c'est complètement bidon, cette proposition d'Hidalgo. Enfin, je ne vois pas où est-ce que ce serait possible. On n'a pas l'espace à Paris, on n'a pas les moyens, et puis les classes sont trop grandes.
Oui. Alors,
il y a quand même quand on travaille, je veux dire, excusez-moi, je veux dire, même pour lire, il faut poser son livre sur une table, des contraintes. Alors j'ai quand même appris qu'il y avait une école de péripatéticiens qui ne sont donc pas des péripatéticiennes.
C'est l'école de Platon. C'est important parce que
parce qu'elle se promène en fait, c'est ça.
Et voilà, exactement. Et donc c'était une méthode d'enseignement.
Vous voyez, nous on fait l'école à la radio.
Oui, oui, c'est vrai.
Nous, on fait l'école à la radio grâce à Alexis.
Oui,
oui, voilà, vous avez appris un truc ce matin.
Bon,
bah oui, absolument.
Cela dit, Nicolas Wallet, alors c'est plus difficile à Paris, mais sur le territoire, globalement, il y a des communes et même des villes où on essaie un peu d'aller enseigner dehors quand il fait beau, etc. Quoi.
Honnêtement, ce n'est pas une nouveauté. Puis dire que l'enseignement se résume à un livre et un cahier face à un tableau, c'est un petit peu réducteur, me semble-t-il.
Ouais, aussi, ouais. Ça c'est vrai.
Je pense qu'on peut travailler un certain nombre d'activités sur l'extérieur. Il y a bien sûr la question de l'EPS, c'est évident, mais on peut travailler un certain nombre de choses comme la géographie, les sciences, etc., dans des cadres spécifiques et avec des contraintes et un programme et une progression spécifique.
C'est peut-être plus difficile de capter l'attention des élèves. À l'extérieur.
Pas forcément, ça c'est une question de cadre. Alors effectivement, la question du groupe peut être un élément. La question aussi du cadre dans lequel on est, par exemple. Alors si je prends l'exemple parisien, et je reviendrai très rapidement sur le territoire plus largement. Si on prend l'exemple parisien, un des paradoxes sur cette question-là, c'est qu'on est en même temps en vigipirate renforcé. Donc si on voulait faire ce genre de choses, il faudrait à la limite privatiser les parcs et les jardins, voire les stades, parce que suivant les endroits où on est dans Paris, on n'a pas les mêmes réalités. Et là, éventuellement, on a la possibilité d'avoir des groupes d'élèves, d'avoir de la concentration, de faire des activités spécifiques qui sont complémentaires à ce qu'on fait dans la classe. Ouais. Alors après, plus largement sur le territoire national, on est de toute façon très dépendant de la réalité locale. Je veux dire, les collègues qui sont à la campagne en école rurale, la problématique de l'extérieur, elle n'est pas du tout la même que dans les grandes villes, les banlieues, etc. Ouais. Donc là, moi, pour avoir connu en classe de découverte, traverser, sortir de l'école et aller dans les champs à côté, c'est quelque chose qu'on peut faire beaucoup plus facilement. Je ne dis pas que c'est le cas partout, évidemment. On voit des choses qui se développent avec l'EPS interdit à l'intérieur, des sorties en montagne, des choses comme ça. C'est pour ça que je fais aussi la référence au ministre au départ. C'est-à-dire qu'on balance des trucs comme ça, comme si le territoire était unique et comme si la réalité de chaque école et de chaque enseignant était la même.
C'est vrai.
Sérieux de toute façon.
Oui. Sur les réseaux sociaux, là, il y a beaucoup de réactions à notre sondage du jour. Il y a Dame Célénée, par exemple, qui dit ça se fait dans les pays d'Europe du Nord, même en hiver, donc c'est possible, mais ces pays ne connaissent pas non plus la même insécurité que la France et la nature est beaucoup plus présente dans leur ville. Ce qui n'est pas totalement faux, évidemment, parce qu'il y a des univers, il y a des écoles qui sont entourées, évidemment, dans des univers très urbains où c'est pas simple, il y a du bruit, etc. Parce qu'il y a un autre, il y a Donner qui dit « Je ne voudrais pas être voisin proche de ces classes de plein air ». Oui.
Non mais déjà que les profs se plaignent avec le match de ne pas pouvoir parler et de se faire entendre à l'extérieur, c'est beaucoup plus compliqué.
Les cahiers et les livres, c'est peut-être pas l'entièreté de l'enseignement, mais excusez-moi, ça conserve quand même une certaine importance. Ouais. Si on veut que les enfants apprennent des choses, essayez donc de faire un cours de maths au jardin du Luxembourg. Il y a quand même dans la transmission, me semble-t-il, il y a peut-être des choses qui nécessitent une certaine rigueur, et effectivement, c'est moins rigolo. Mais bon.
Elisabeth, il parlait de géographie.
On peut aussi travailler Pythagore avec un travail sur les ombres à l'extérieur. Enfin, il y a des tas de possibilités, l'astronomie, des choses. Enfin, voilà, on va pas rentrer dans un débat pédagogique, mais il y a des choses à faire. Et bien entendu, il n'est pas question de dire que tout doit se faire à l'extérieur, bien au contraire.
J'aurais peut-être été bonne en maths si j'avais eu ça, tiens.
Rien n'est perdu, Cécile.
Je vais proposer à Nicolas Wallet de donner des cours d'ombre sur
Nicolas Wallet, une dernière question. On sort un tout petit peu du contexte, mais quand même sur les tests salivaires là, qui sont proposés dans les écoles. Qu'en pensez-vous d'une part sur l'idée et puis ensuite sur la faisabilité et la façon dont c'est organisé, puisque le ministre a dit hier qu'il y allait avoir du recrutement de personnes qui allaient venir en plus dans les écoles pour pouvoir procéder à ces tests salivaires.
Sur l'idée, on peut pas être contre, bien au contraire. C'est même une demande qu'on avait depuis un moment, qu'on est vraiment dans un développement massif de ce type de tests qui sont quand même les plus adaptés pour les élèves et en particulier pour les plus jeunes. Ça, c'est évident. Après, avoir un avis sur la stratégie ministérielle, c'est un peu compliqué parce qu'on a du mal à la comprendre, si vous voulez. Quand on parle de 300 000 tests hebdomadaires, parce que c'est le chiffre que j'ai retenu, on est très très loin de pouvoir tester la majorité de la population. Donc après, on part sur des échantillons. Ce qu'on n'arrive pas à savoir, c'est quels sont les critères de choix des écoles dans lesquelles les enfants vont être testés. Et là, il y a une espèce de flou, une fois de plus, qui fait que, encore une fois, on part d'une annonce qui pourrait être une bonne idée, qui est même au contraire, qui est nécessaire, parce que l'objectif, c'est quand même de rompre au maximum les chaînes de contamination, mais dont la mise en œuvre concrète, encore, pour l'instant, on est plus dans l'attente de la réalité, au-delà des effets d'annonce.
Oui, non, mais ça, c'est vrai, parce que ça me semble étonnant, hein. Il y a des millions d'élèves, et donc là, on propose quelques tests, quelques milliers de tests salivaires. Je ne sais pas franchement à quoi ça va servir, quoi, dans le contexte actuel.
C'est l'interrogation qu'on peut avoir.
Ouais, complètement. Merci en tout cas à tous. Merci Nicolas Wallet, hein, directeur d'école maternelle à Paris. C'est mercredi, donc ça va, vous avez un petit peu de temps de voir vous.
On travaille à Paris le mercredi.
Oui, c'est vrai. Oui, pardon.
C'est vrai.
Oh là là.
C'est vrai.
À l'époque d'Alexis Poulain et de moi-même, c'était le jeudi.
C'était avant Jésus-Christ.
C'était en 1950.
Moi, je n'ai pas connu.
Ah non, vous n'avez pas.
J'aurais jamais osé dire ça, Nicolas.
Bon,
en tout cas, passez une bonne journée.
Merci,
Elisabeth
Lévy.
Et Alexis Poulain.
Bien sûr, et puis les auditeurs. 0826 300 300.
Et dans un instant, on vous emmène à la campagne, dans une très belle enquête qui a duré un an et demi. Le réveil de la France oubliée avec Anthony Cortès. Et pour revaloriser effectivement les régions, mettre en avant, montrer les initiatives et montrer qu'il y a quand même de l'espoir, même si aujourd'hui il y a encore beaucoup de précarité.
On devrait envoyer beaucoup de gens quand même dans les campagnes. Ah oui. Ça leur ferait beaucoup de bien de découvrir un peu aussi la France. Il nous vient de Corneilla-la-Rivière, dans les Pyrénées-Orientales. Il sera avec nous jusqu'à 10h moins le quart, où on parlera après d'un petit cocorico quand même. Hein.
Oui, d'un petit cocorico.
La voiture Yaris made in France, puisqu'elle est fabriquée du côté de Valenciennes, qui a été élue hier voiture de l'année. Par un jury du côté de Genève. On en parlera avec Jean-Luc Moreau. Vous savez, Jean-Luc Moreau qui présente,
Sud Radio, 11h midi, on parle auto, Laurence Perrault, Jean-Luc Moreau.
Voilà, c'est tous les samedis avec Pierre Chasseret également, lui à midi pour Ça roule, bien sûr.
Et on se retrouve dans un instant avec une campagne riche. À tout de suite.